Pourquoi les catholiques sont-ils si durs entre eux, si sévères les uns à l'égard des autres? C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises ces dernières semaines, par des femmes d'ailleurs. L'une, c'était à propos des prêtres qu'elles côtoyaient professionnellement, dont les critiques permanentes sur leur hiérarchie l'horripilent. Pour une autre, ce n'était pas des prêtres, c'était des séminaristes, elle s'occupe de séminaristes, et c'est moi qui lui ai demandé « Comment sont les nouveaux séminaristes ?» Moi, je ne les vois pas beaucoup, je voulais renseigner. « Ils sont comment, les nouveaux séminaristes ?» Il me dit « Oh, ils ont du caractère, ils ont de la personnalité, mais ils sont impitoyables entre eux. » Il est impitoyable entre eux, au point que cette année, elle avait dit « Stop, arrêtez, non, ça ne va plus, là, c'est indigne de vous. » Et pour une autre encore, ça revient souvent de sa part, mais elle me dit, c'est l'accueil dans l'église, dans les églises, quand on va, c'est l'accueil qui est insupportable. Elle me dit, je vais changer de religion. Je vais changer de religion parce qu'on a vraiment trop l'impression de déranger quand on vient et qu'on ne fait pas partie du club, enfin des gens en place. Trois témoignages parmi d'autres, je pourrais les multiplier, j'en ai sans cesse, sans oublier de m'incriminer moi-même. De m'incriminer moi-même en matière de dureté, de sévérité ou de jugement. Mais avec cette question forte, comme s'il fallait choisir entre une naïveté de bisounours et puis une acuité de rapace. L'évangile de ce dimanche, avec ce réveil en pleine nuit. Réveil en pleine nuit ! Sonne comme un appel à sortir de notre sommeil, de nos lourdeurs, à ouvrir les conditions d'accès à la grâce. Pour le dire de façon très précise, à changer les horaires d'ouverture de la charité. Il faut reconnaître qu'elle est chez nous souvent à géométrie variable. On peut y être habitué, on peut raisonner un peu comme de mauvais élèves, un réflexe de Kant, se dire « Oh, bon, c'est pas mieux ailleurs ». On dit, oh, bah, de toute façon, la malveillance, la jalousie, ça existe partout. C'est pas plus grand chez nous que chez les autres. On peut se résigner, tout en sachant que c'est contraire à l'Évangile. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on saura que nous sommes les disciples du Christ. Pourquoi les catholiques sont-ils si souvent si durs entre eux? Un ami qui je posais la question m'a dit, ça date de l'époque où on était majoritaire. Je voudrais vous proposer ce matin deux ou trois pistes de réflexion qui puissent être des sujets de discussion entre vous, voire pour certains de conversion. Peut-être que cette dureté vient de l'exigence chrétienne de perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Peut-être que notre vocation, peut-être que l'appel à la sainteté a pour effet indirect de nous rendre excessivement exigeants les uns à l'égard des autres. Et ce d'autant plus que les domaines de la sainteté sont extrêmement larges. Ça couvre un champ immense. Tous les domaines de la vie spirituelle, de la vie morale, apostolique. Et vous savez très bien que quoi que nous fassions, si un chrétien passe son temps en prière, on va lui dire qu'il ne s'occupe pas des autres. Vous savez, chacun de nous sait que quoi que nous fassions, il trouvera toujours des personnes pour nous faire des critiques. Toi, tu es chrétien et tu fais ça? Ou tu fais pas ça? L'été, je me déplace et il y avait une de mes hôtesses qui m'avait hébergé quelques jours, une sainte femme, qui m'a parlé de sa meilleure amie qui ne va plus à la messe. Qui ne va plus à la messe depuis que leur curé l'a, dit-elle, humiliée devant tout le monde. Une histoire de cloche-mère, elle était arrivée en retard. Pendant l'homélie, bon, elle n'a pas attendu à la porte, elle est allée s'installer, et il s'est interrompu et elle a dit « On va attendre que cette dame ait fini de s'asseoir. » C'était pas très délicat. Je compatis parce qu'on perd facilement le fil quand il y a un dérangement, quand quelqu'un se déplace, mais enfin, il aurait pu s'abstenir, elle aurait pu attendre la fin de l'homélie. Mais c'est comme dans l'évangile de dimanche dernier, l'histoire de Marthe et Marie. Laquelle des deux n'était pas gentille avec l'autre? Marie qui laissait Marthe tout faire? Ou Marthe qui venait se plaindre et qui venait les déranger? C'est assez symptomatique de notre conception de l'idéal chrétien. Au début du mois, nous entendions dans l'Évangile toute la radicalité de l'appel du Christ. Et Jésus tenait des paroles dures à l'égard de celui qui l'appelait. Laisse les morts enterrer les morts. Il ne permettait pas à un autre d'aller embrasser son père, sa mère. Est-ce que c'est l'idéal chrétien qui est dur? Ou est-ce que c'est la conception, l'image que nous en faisons chacun, qui varie évidemment d'une personne à une autre? Alors oui, bien sûr, cet idéal est élevé, il est grand. Mais pourquoi nous rend-il si sévère entre nous? Qu'est-ce que c'est un bon chrétien? Sinon, quelqu'un qui corresponde exactement à nos critères. Nous avons chacun notre idée du bon chrétien. Il y a quelques samedis, il y a des contractuels qui sont venus pendant la messe de 18h pour verbaliser les voitures qui étaient garées sur le parvis et faire procéder à leur enlèvement. Alors, il y a des gens qui sont sortis, ils ont demandé un petit peu d'indulgence, ça ne gêne personne. Depuis, je fais des courriers incessants au maire, au préfet, enfin, je n'arrête pas les courriers pour demander simplement un peu de tolérance et d'indulgence. Mais alors, le chef des contractuels qui était là, il a sorti de sa poche un chapelet. Et elle dit, moi quand je vais à la messe, je me gare correctement. Il n'y avait qu'un catholique pour être aussi impitoyable avec d'autres catholiques. Pour penser que ce qu'il faisait lui, qu'il pouvait faire, tout le monde devait pouvoir le faire. Le fait est qu'une personne soit baptisée ne semble plus constituer aujourd'hui aux yeux des autres chrétiens un plus. Je vous parlerai un autre dimanche, probablement au mois d'août, de la difficulté, voire même de notre incapacité, à expliquer la nécessité du baptême. Nous sommes la seule religion au monde qui n'ait pas de préférence pour ses membres. Mieux encore, nous sommes la seule religion au monde où il ne puisse pas y avoir de communautarisme, parce que nous sommes catholiques, c'est-à-dire universels. C'est un mot, l'usage moderne du mot communautarisme, ça a été inventé dans un pays, dans notre pays post-chrétien, pour stigmatiser des communautés particulières qui refusent simplement d'adhérer à la pensée unique, dont il se trouve qu'elle est matérialiste et athée. Dans la parabole du bon samaritain, il y a deux dimanches, Jésus prenait un exemple, le membre d'une communauté étrangère, un samaritain. Il fallait entendre ce que ça voulait dire pour les personnes de son époque. Il y avait un prêtre, un lévite, on pourrait dire. Il y avait un prêtre, un diacre et un Algérien. L'équivalent, pris en exemple par Jésus. C'est la spécialité chrétienne de prendre en exemple les autres croyants. C'est ce que Jean-Paul II écrivait dans sa première, le Saint-Pape Jean-Paul II, dans sa première encyclique, disait, n'arrive-t-il pas parfois que la beauté, la fermeté de croyance des membres des religions non chrétiennes devrait faire honte aux chrétiens. Il y a une troisième raison qui fait que les catholiques sont durs entre eux. La première est cette conception étroite, très idéologique de l'idéal chrétien. Alors même qu'on sait que nul ne peut incarner la sainteté dans tous les domaines. La deuxième, c'est une vision faussée de l'universalisme, qui nous fait oublier le point de départ. Le point de départ, le fondement de la mission. Allez, baptisez-les! Donnez, offrez le baptême! La joie, la fierté d'être baptisé! Et ces deux raisons ont ceci en commun que elles méconnaissent la puissance de l'esprit, celui qui fait l'unité dans la diversité. Et puis il y a une troisième raison qui m'a été donnée il y a longtemps maintenant, lors de maraudes, de visites de personnes, de maraudes que je faisais auprès de personnes de la rue, des hommes et des femmes, comme on appelle aujourd'hui des travailleurs du sexe, livrés à la prostitution. Chris, l'une de ces personnes, transsexuelle, se prostituait pour pouvoir payer toutes les opérations interminables de son changement de sexe. Et il nous expliquait à quel point la féminisation de la police avait changé les relations avec elle. À quel point l'entrée croissante, le nombre croissant, la grande proportion de femmes maintenant dans les effectifs de police l'avait adouci, humanisé. Et on pourrait tenter d'ailleurs de l'appliquer à l'Église, de se demander si la dureté des catholiques ne viendrait pas de la hiérarchie exclusivement masculine, de l'absence de femmes dans le gouvernement de l'Église. Mais ce serait une vision très extérieure, très superficielle. Il y avait ceci de remarquable chez Chris, qu'il faisait le trottoir en récitant le chapelet. Voici ta mère. Si nous entendions dans toute sa force cette parole du Christ sur la croix, nous aurions certainement d'autres relations entre nous. Si nous pouvions considérer, contempler de façon plus juste la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Il n'y a chez nous catholiques de véritable respect entre nous que là où nous avons une juste vision de la Vierge Marie, là où nous savons nous remettre à elle, notre mère. Et je garde en mémoire cette remarque. Il y avait une étudiante protestante qui était venue dans une université catholique, et puis au bout de quelques mois, elle s'était exclamée, elle a dit « Mais en fait, toutes les prières à la Vierge Marie, ce sont des prières au Saint-Esprit. » En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la douceur de la Vierge Marie, sa douceur vient de l'Esprit-Saint. Et si donc nous, nous voulons aussi faire preuve de douceur, de respect, nous devons le demander au Saint-Esprit, mieux encore, comme dit l'Évangile, nous devons demander le Saint-Esprit. La douceur vient du Saint-Esprit.